Bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 2 et premièrement au verset 14. Actes chapitre 2 verset 14. Nous ferons une petite lecture. Juste avant, je vais citer trois textes pour nous introduire dans le sujet de ce soir, un sujet que j'ai eu à cœur fraîchement et qui, je l'espère, nous fera du bien. Je vous cite d'abord trois lectures, vous n'aurez pas à chercher, dans Romains 14, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Deuxième texte, Romains 14 encore, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et un autre texte, dans Hébreux 10, au verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous avez compris un petit peu de quoi il est question ce soir ? De conviction, d'assurance. De conviction et d'assurance. Premier texte nous dit que chacun est en son esprit une pleine conviction. La volonté de Dieu pour nous, ce soir, mais chaque jour de notre vie, c'est qu'on soit des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, ou des personnes âgées, peu importe, pleins, remplis de convictions. Avez-vous des convictions ? C'est le temps d'immerger, pas d'immerger, d'émerger. Est-ce que vous avez des convictions? Tiens, est-ce que vous êtes sûr du prénom que vous portez? Ça va jusque-là? Bon. Est-ce que vous êtes convaincu que vous n'êtes pas là pour rien? Notre raison. Est-ce que vous êtes plein de convictions quant au Seigneur Jésus? Croyez-vous que Jésus est mort à la croix pour vos péchés? Il y a d'autres choses, on pourrait passer la soirée à se poser des questions comme cela. Êtes-vous plein de conviction? En tout cas, le Seigneur veut et voudra de toujours jusqu'à son retour que nous soyons pleins et pleines de conviction, remplis d'assurance, de conviction dans notre cœur. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Vous savez, Dieu ne veut pas qu'on ait beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'opinions. Il veut qu'on ait des convictions. Parce que quand on fait les choses, en tout cas dans le domaine spirituel, quand je prie au cas où, je ne suis pas agréable à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je prie au cas où, ça veut dire que je ne fais pas confiance à Dieu. Je ne suis pas sûr qu'il va m'entendre, je ne suis pas sûr qu'il est capable de répondre à ma prière. Peut-être que je ne prie pas avec conviction parce que je ne suis pas sûr de mes mérites. Et je me sens si bas, si misérable pour demander quoi que ce soit. Ça paraît bien. Mais c'est pas bien, parce que le Seigneur, il veut qu'on sache qu'on ne méritera jamais rien et qu'il donne tout par grâce. Bien sûr, il y a quelques conditions pour recevoir. La première, c'est d'avoir la foi. La foi dans quoi? Dans qui? Bien, dans l'œuvre de Jésus, accomplie sur le bois de la croix et jusque aujourd'hui, puisqu'il est ressuscité, il intercède pour nous. Lui, il prie et il est toujours exaucé. Vous saviez que Jésus est toujours exaucé? Et il prie pour nous. C'est une bonne nouvelle, non? Jésus prie pour moi, il est toujours exaucé. Ça, c'est bien. Qu'il puisse prier en ma faveur pour moi. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Saviez-vous que Dieu récompense, rémunère ceux qui le cherchent? Quand on cherche le Seigneur, qu'on cherche sa face, qu'on cherche sa présence, qu'on cherche sa volonté, qu'on cherche son approbation aussi, puisqu'on veut lui être agréable, on veut l'honorer, lui qui nous a sauvés, eh bien, Dieu rémunère, récompense ceux qui font cela, ceux qui s'y donnent. À cœur joie. Peut-être êtes-vous venu ce soir avant 20h30 puisque vous vouliez prier. Vous savez que Dieu a dit qu'il fallait prier. Jésus a laissé ses instructions, prier, prier sans cesse, etc. C'est répété dans les épîtres, enseigné, c'est la volonté de Dieu et vous voulez lui être agréable. Vous voulez chercher la face de Dieu. Vous êtes sûr que ça plaît à Dieu quand son peuple se rassemble pour prier. Et alors vous êtes agréable et Dieu récompense, Dieu rémunère ceux qui sont dans un tel état d'esprit. Alors on va lire ensemble dans Actes chapitre 2, verset 14. Nous avons beaucoup parlé là tout de suite des convictions en notre faveur. Je suis convaincu pour ne pas pécher. Je suis convaincu parce que c'est la volonté de Dieu. Je suis convaincu pour être rémunéré, récompensé. Mais il y a une autre raison pour laquelle je dois être convaincu. Actes 2, 14. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Dans quel contexte ce texte a été écrit? Cette situation s'est faite. baptême dans le Saint-Esprit. Il venait d'y avoir la Pentecôte. Il y avait la promesse de Jésus et les apôtres s'étaient réunis avec d'autres frères, d'autres sœurs. Ils étaient dans la chambre haute et puis d'un coup, la promesse s'est accomplie. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ça a étonné beaucoup de personnes. Certains disaient ils sont fous, ils sont ivres. D'autres disaient mais non, on les entend dans notre propre langue. Et puis c'est pas l'heure, va dire Pierre. C'est pas l'heure hein, d'être ivre. Mais des personnes étaient étonnées et Pierre va commencer à se lever, rempli du Saint-Esprit. Et il va se mettre à parler. Et regardez le résultat, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez que Pierre a été convaincu quand il a prêché ce jour-là, le jour de la Pentecôte? Vous avez vu un peu le résultat, si on peut parler de résultat, sans chercher le nombre, mais vous avez vu le fruit un petit peu de ce qui s'est passé ce jour-là, même du message que Pierre a pu donner par l'action du Saint-Esprit en lui, 3000 âmes qui se font baptiser et qui s'ajoutent au nombre des disciples. 3000 âmes. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a 3000 personnes ce soir qui se donnent au Seigneur Jésus? On change de local, tout de suite. Ou alors on multiplie le nombre de cultes, peut-être, je ne sais pas. Il va falloir aménager un peu les choses, mais qu'à Dieu ne plaise que ça n'arrive, n'est-ce pas? Vous seriez d'accord que 3000 personnes s'ajoutent à Sainte-Agne, à l'Assemblée de Sainte-Agne, et surtout au Royaume de Dieu? Moi je serais d'accord, hein. Gloire à Dieu. Et là, je vais aborder ce soir ce thème, être convaincu pour être convaincant. Voilà le titre du message ce soir. Être convaincu pour être convaincant. Il y a des bénédictions personnelles lorsque je suis convaincu et plein de convictions, mais Dieu veut surtout que je sois convaincu pour être convaincant à mon tour. La première chose que l'on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce contexte, c'est qu'il y a eu une effusion du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Dieu a donné de son esprit pour que les hommes, les femmes, les personnes qui étaient là soient convaincantes. Et Pierre en a été le premier des témoins. Être convaincant. Le Saint-Esprit, la première action du Saint-Esprit dans Jean 16, versets 7 à 8, c'est que le Saint-Esprit est envoyé pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. La première action du Saint-Esprit, c'est de me convaincre moi-même pour que je puisse être convaincant à mon tour. Puisqu'il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous convainc pour qu'on témoigne et qu'on soit convaincant dans notre témoignage. Auriez-vous soif que lorsque vous rendez témoignage, autour de vous, les gens soient touchés par l'action de Dieu? Pas par vous, mais par l'Esprit de Dieu qui peut travailler au travers de vous. C'est le souhait que j'ai. J'espère que Dieu aura la liberté dans ma vie d'agir, de me transformer, de me façonner, pour que l'Esprit de Dieu ait de plus en plus la liberté de parler au travers de moi. C'est là ce que je souhaite, et je prie pour que Dieu y arrive, et qu'il ait la victoire sur ma chair, sur mon moi. Que je meure pour porter du fruit. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il porte du fruit. Amen. Et comment être vainqueur en mourant à soi-même? Comme ça, Jésus a toute la place et l'Esprit de Dieu a toute la place. La première chose que l'Esprit de Dieu a fait au travers de Pierre, c'est de lui donner des paroles, de la parole. Pierre ne s'est pas mis à faire un beau discours émouvant sur toutes sortes de choses. Pierre a rendu témoignage ce jour-là en prêchant la parole de Dieu, tout simplement. La première arme et l'arme par excellence du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. La parole, la Bible, c'est l'épée de l'Esprit qui opère une action bénéfique dans le cœur des gens. L'arme du Saint-Esprit, et ce n'est pas une arme qui fait mal, ce n'est pas une arme pour détruire, mais c'est une arme pour construire, pour édifier, pour sauver, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et pour être convaincant, il faut premièrement que je m'approprie la parole de Dieu. Deuxièmement, que j'expérimente la parole de Dieu. Et troisièmement, que je témoigne de l'action de la parole de Dieu dans ma vie. Vous êtes d'accord? On va voir trois choses. S'approprier, expérimenter et témoigner. C'est bon jusque-là? Vous êtes d'accord? S'approprier. Si je crois que les promesses de la Bible sont pour les autres, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Si je crois que les promesses de Dieu sont pour mon frère, ma sœur, les gens de l'extérieur, les gens dans l'église, etc., c'est bien. Mais si je ne crois pas qu'elles sont pour moi, je passe à côté de quelque chose et je ne serai pas utile dans les mains de Dieu. La première chose qu'il faut faire, c'est s'approprier pour soi la parole de Dieu. En premier, c'est pour moi et ce n'est pas de l'égoïsme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas de l'égoïsme que quand j'ouvre la Bible, la première chose à laquelle je pense, c'est comment Dieu veut me parler à moi, ce soir, maintenant, ce matin, quand je me réveille, ce soir, quand je me couche, ou à n'importe quel autre moment quand j'ouvre la Bible. Il faut que je m'approprie pour moi la parole de Dieu. En plus, on n'a pas un livre comme les autres livres. C'est le livre, la bibliothèque même, par excellence. La Bible est un livre vivant. C'est la parole de Dieu, elle est vivante, efficace pour travailler dans nos cœurs. Elle est toujours actuelle, il n'y a pas plus actuelle qu'elle. La Bible, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Mais c'est la parole de Dieu et Dieu est éternel, Dieu ne change pas. Et sa parole ne passe pas, elle ne passera jamais. Oui, la créature passera, la terre, le ciel passera, les paroles des hommes passeront. Mais sa parole à lui ne passera jamais. Et elle est valable pour moi. Aujourd'hui, et quand j'ouvre la Bible, je dois m'approprier les paroles de la parole de Dieu de la Bible pour qu'elles aient une efficacité en moi, pour qu'elles puissent me convaincre et que je puisse à mon tour être convaincant. On va regarder un petit peu l'attitude qu'il faut avoir pour s'approprier une parole de Dieu. Je vais vous demander d'ouvrir dans Romains chapitre 4 et verset 18. Il nous est parlé de l'exemple d'Abraham, le père des croyants, puisqu'il est celui qui nous a donné un exemple par rapport à la foi. Souvent, on prend comme définition la foi, c'est Hébreux 11, verset 11. Qu'est-ce que ça dit? Je vais vous le lire. Ne perdez pas la page, restez-y. Je vous lis Hébreux 11. Oui. C'est verset 1, pardon. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Moi, je reviens à Romains chapitre 4 et verset 18, et voilà la définition pour moi de ce que c'est que la foi. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de croyants, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité ». Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Quand je rencontre la parole de Dieu, quand je tombe sur une promesse, quand je tombe sur la Bible, la parole vraiment de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Regardez ce qu'il a fait. Premièrement, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et je vous invite à comprendre que la foi, ce n'est pas de considérer les circonstances. Au contraire, c'est de dire qu'importe les circonstances. Vous avez vu ce qui est dit un peu plus haut? Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, je choisis, et c'est un choix. Et Dieu nous donne la capacité de choisir. Je crois qu'il n'y a personne qui peut dire, mais je ne peux pas. Dieu te donne de pouvoir, puisqu'il est le chef, le consommateur de la foi, et même il donne la foi par sa parole. Espérant contre toute espérance, ne considérant point. Il ne faut pas regarder aux circonstances, il ne faut pas regarder à l'état de mon corps, à l'état de ma vie, il faut regarder à ce que Dieu dit. Ne considérant pas l'état de son corps. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne doute pas. Est-ce que Abraham n'a jamais douté? Qu'il pouvait, par Sarah, enfanter? Bien sûr qu'il a douté. Puisqu'elle lui a dit, peut-être que Dieu, il avait un plan qu'on n'aurait pas compris, ou il y avait quelque chose d'autre. Enfin bref, t'as peut-être mal compris la parole. Et puis lui, au bout d'un moment, il a douté, il a dit, ok, il est allé. Il est allé. Ce qui se passe, c'est pas qu'Abraham n'est pas passé par un moment de doute. C'est qu'au bout d'un moment, il a vraiment réalisé. Il s'est repris. Il a refait surface. Il a repris le chemin de la foi. Il est vraiment allé dans la route. À un moment, il y a des moments, on passe tous par des moments où on est un peu plus ballotté, hein, on est un peu plus chahuté dans notre cœur, dans notre esprit. Et il y a des questions qui sont là. Ça fait pourtant tant d'années que j'attends. Ça fait pourtant tant de fois que je prie. Et pourtant, Dieu a une promesse, mais je ne vois pas la chose arriver. Et on serait tenté des fois de rester dans son doute, de rester dans cette situation ballottée. Ce qu'a fait Abraham, au bout d'un moment, il s'est ressaisi. Il a repris la parole. Et il s'est dit, non, c'est ça qu'il a dit. C'est pas ça, c'est ça. Et il a repris surface, il a repris confiance en Dieu. Oh, il n'a pas commis aucune erreur, Abraham. Et je suis pas en train de dire, oui, si tu doutes, c'est que t'as pas la foi, c'est que c'est pas bon pour toi. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu es dans un moment de doute, rappelle-toi la promesse. Recommence à faire confiance. Tu t'es égaré, tu t'es trompé, tu as abandonné. Reprends, reviens. Et Dieu, il garde les mêmes promesses pour nous. Il garde les mêmes promesses. Dieu est prêt à recommencer avec nous. Il ne douta pas, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné gloire à Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Comment ? En ayant l'attitude qu'il faut, en attendant, en se confiant dans le Seigneur. Et comment ? En ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Il avait confiance dans la capacité de Dieu. Il savait que Dieu était tout-puissant. Peu importe ce qu'il voyait, peu importe ce qu'il constatait, peu importe le temps qui passe, il savait que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Et c'est ça la foi pour moi. C'est pas de démontrer des choses. Qu'est-ce que je peux démontrer ? De moi-même, je suis pas capable. D'ailleurs, le texte ne dit pas « démontrer ». Il dit une autre parole dans Hébreux 11, verset 11. Il dit « une assurance des choses que l'on espère, une conviction des choses qu'on ne voit pas ». Je suis convaincu, je sais que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Et peut-être que quelqu'un ce soir est là, dans cet état, il dit oui, pour les autres ça marche, mais pour moi ça ne marche pas. Pour les autres, bien sûr, j'ai déjà entendu des choses, mais pour moi ça ne marche pas. Pour moi je doute, pour moi je suis mis à l'écart. Peut-être que je suis trop pécheur pour Dieu, pour qu'il puisse m'accorder sa promesse. Mettez ça de côté, vous ne méritez rien. Sachez que Jésus a tout accompli. La promesse est certaine. La promesse est pour tous ceux qui sont prêts à croire, à lui faire confiance, qui sont prêts à avoir de l'assurance en lui, à se placer en lui, à dire « Seigneur, ce que tu as promis, je sais que tu es capable de le donner. Et si je ne le vois pas aujourd'hui, eh bien j'attends que tu puisses le montrer dans ma vie. J'attends, je te fais confiance. Je reste et je demeure dans tes voies. » C'est pour cela que tout ça lui fut imputé à justice. Ça lui était accordé. Malgré le temps qui a passé, malgré son erreur au passage, il a eu la promesse lui a été accordée. Est-ce que vous croyez qu'Abraham aurait eu cette conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir, si jamais il n'avait pas compris que c'était pour lui la promesse ? Cette promesse qui dit « telle sera ta postérité ». Quand est-ce que Dieu lui a dit ça ? Quand il lui a dit de regarder vers les étoiles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, qui a une femme stérile, quelqu'un qui voit les circonstances peut-être qui est là et qui ne peut pas humainement parlant avoir d'enfant, trop âgé, le temps est déjà passé, la matrice est détruite ou trop vieille, est en panne. Et puis quelqu'un vient vous dire, tu sais, regarde les étoiles. Tu vois, tu arrives à les compter ? Non. C'est pas possible. Eh bien, ta postérité sera encore plus nombreuse. Aussi nombreuse. Elle sera comme les étoiles, en tout cas, on ne pourra pas la compter. Telle sera ta postérité. Il a compris que la parole était pour lui. Et il avait la conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Tant que je ne sais pas que la promesse est pour moi, je ne peux pas avoir confiance. Je n'aurai pas de conviction dans les choses de la parole de Dieu. Il faut qu'on s'approprie les paroles de Dieu.
Je vous prends un exemple. Je cite dans Matthieu 7. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez de bonnes choses à vos parents, combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Pour qui est cette promesse ? Comment ? Pour nous ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont exempts de cette promesse ? Les seuls gens qui pourraient passer à côté de cette promesse, ce sont ceux qui ne demandent pas. Puisque la promesse, il faut bien lire. La promesse, c'est pour ceux qui le lui demandent. Dieu compare, Jésus compare un peu la situation au cas de parents qui ont des enfants qui disent « Papa, j'ai faim » ou « Papa, j'ai soif ». Tiens un scorpion, tiens un serpent, tiens une pierre, c'est pas possible. Jérôme Fabio n'a jamais fait ça avec ses enfants. Qu'est-ce que tu en penses ? De donner un scorpion, une pierre ou je sais pas, un bout de bois à un enfant qui a faim. C'est impossible. Ou un enfant qui a soif, lui dire ben, « je vais te donner du vinaigre ». C'est pas ça. On va donner de l'eau, du jus d'orange, des choses comme ça, de bonnes choses à nos enfants. Et Dieu qui a appelé Père, ne donnera-t-il pas toutes choses, de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Il faut que je m'approprie la parole. La parole, c'est pas dire « toutes les promesses sont pour moi ». La parole, c'est de la méditer, s'approprier, c'est de méditer la parole et de vérifier si je suis dans la bonne position pour obtenir la promesse. Je vais loin. Mais des personnes vont s'approprier des promesses qui ne sont pas pour eux. D'où l'intérêt de méditer la parole toujours. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est l'arme de l'esprit pour nous convaincre et pour convaincre. Pour nous utiliser pour convaincre. Mais il faut la méditer. Un petit peu de lecture ou survoler la parole ne suffit pas. Si je lisais ce texte vite fait, vous avez vu, on peut dire « Tout le monde recevra de bonnes choses de la part de Dieu ». Mais non, il est dit à tous ceux qui la lui demandent. Un autre exemple qu'on s'approprie souvent mais qui n'est pas donné à tout le monde. Une promesse qu'on a tendance à s'approprier mais qui a été donnée dans un contexte particulier. Par rapport au geôlier, dans Actes, c'est au chapitre 16, vous n'êtes pas obligé de le chercher. À un moment, il est dit « Paul et Silas répondent à ce geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et du coup, beaucoup de chrétiens croient que eux et leur famille seront sauvés. De toute manière, qu'importe ce que l'enfant décide ou qu'il fasse. Moi et ma famille, je serai sauvé. C'est une promesse de Dieu. Et là, il faut encore méditer la parole. Et je remarque que c'est une parole de connaissance pour un homme particulier, dans un contexte particulier. Cet homme, ce geôlier, a reçu une promesse particulière pour lui de la part de Dieu. Toi et ta famille seraient sauvés si tu crois au Seigneur Jésus. Parce que ton témoignage sûrement va toucher ta famille aussi. Ton changement d'attitude, ton changement de vie, ta transformation que Dieu va opérer en toi va tellement te toucher que toi et ta famille vous serez sauvés. Mais c'est dans un contexte bien particulier. Et il suffit pas de méditer même que ce texte. Il faut méditer la parole dans son ensemble pour comprendre que il y a vraiment quelque chose de particulier à ce moment-là. Mais est-ce que Dieu peut pas dire à quelqu'un ce soir, toi et ta famille, tu seras sauvé ? Moi, je le crois aussi. Mais ça sera une promesse particulière, reçue dans un moment particulier. Et si c'est une promesse de Dieu, elle s'accomplira toujours. Parce que c'est comme ça qu'on discerne une parole de Dieu et une parole d'un homme, c'est que la prophétie s'accomplit. C'est ce que Dieu nous dit, d'éprouver les prophéties en regardant si elles s'accomplissent. Et c'est pourquoi il me faut m'approprier la parole en la méditant. Première attitude. Deuxième chose qu'il faut, je l'ai dit, c'est expérimenter la parole de Dieu. C'est bien de savoir beaucoup de choses, mais si je ne m'intéresse pas au fait de vivre la parole de Dieu, je ne serai pas non plus convaincant. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, et moi j'ai été le premier en tant que fils de pasteur, né dans une famille chrétienne, j'ai jamais connu mes parents inconvertis, je n'ai jamais connu un foyer, je n'ai jamais grandi dans un foyer avec des parents rétrogrades ou des parents qui renoncent, qui reculent face à la foi. J'ai toujours été dans un contexte où on m'a enseigné la foi, la confiance en Jésus. Et moi, je me suis mis, en bon élève, à répéter ce qu'on me disait et à raconter à tous mes copains ce que Jésus pouvait faire pour eux. etc. Et je disais, tu sais, j'ai entendu à l'église où mon papa prêche, j'ai entendu que telle personne a vécu ça. Et j'ai entendu que Dieu a fait ça dans telle situation. Et j'ai entendu ceci, ceci, cela. Et un jour, j'ai été surpris parce qu'on m'a dit, et pour toi, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah ben maman, oui mais pour toi. Pour toi. Dans la parole, il est dit qu'on soit prêt, qu'on se prépare à répondre de notre foi envers ceux qui nous contredisent. Non pas pour les tuer, non pas en les agressant, non pas en leur répondant violemment, mais avec douceur, en disant « Mais ce que tu me dis, je le comprends, mais voilà ce que moi j'ai vécu. Je l'ai cru, j'ai fait confiance, et je l'ai vu. J'ai expérimenté. Tu sais, si je te dis que Dieu donne la paix, c'est parce que moi, j'ai fait confiance, j'ai demandé pardon pour mes péchés et j'ai reçu la paix de Dieu. C'est si je te dis que Dieu est amour, c'est parce que j'ai vécu que Dieu m'aimait. Un jour, alors que je doutais, etc., j'ai entendu la prédication et j'ai vraiment ressenti quelque chose. J'ai goûté à l'amour de Dieu. J'ai goûté à l'amour et dans mon cœur, il y a eu comme une conviction qui est venue. Je ne l'explique pas, mais je l'ai vécu et je sais ce que c'est. On peut parler du chocolat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je peux avoir lu dans un livre quelle couleur ça avait, quel goût ça avait, comment ça se fabriquait, de quel cacaotier ça pousse, comment c'est, etc. Je peux en parler beaucoup si j'ai lu des choses dessus. Mais qu'est-ce qui est comparable qu'à avoir goûté le chocolat ? Quand on a goûté le chocolat, là on peut en parler mieux que jamais. Le miel. Le miel. Je peux dire, oui, le miel, c'est comme ça, ça pègue aux doigts et tout, etc. C'est très sucré, ça fait du bien au corps, etc. Mais quoi de mieux que quelqu'un qui a goûté le miel, et encore mieux, qui a visité une usine où on récupère, on récolte le miel. Elle est allée voir des, je sais plus comment on dit, des personnes qui ont des cruches, des ruches, pas des cruches. Pas un cruchier, ni un ruchier, mais comment on dit ? Un apiculteur. Merci. Quoi de mieux que d'avoir vu ces choses, de voir la personne mettre son habit tout blanc avec son grillage là autour du visage pour pas trop se faire piquer. Quoi de mieux que de voir un petit peu l'odeur que ça a une ruche et puis le produit qu'on y met, la fumée pour endormir, apaiser les abeilles, etc. Quoi de mieux que ça pour parler du miel ? Et parler de ses bénéfices, quoi de mieux que d'avoir mangé du miel et de voir une personne âgée en pleine forme, en pleine santé, parce qu'elle a toujours mangé du miel. Quoi de mieux que le propre témoignage ? Je pourrais parler d'autre chose, de la brûlure. J'ai pris ce texte parce que j'ai moi-même été brûlé. Je peux dire, oh, se brûler, ça fait mal. Se brûler, il y a une sensation de picotement, il y a comme une sensation de sécheresse, la brûlure par gaz. Je pourrais encore aller plus loin. Il y a comme une sensation de sécheresse, on entend une explosion, tiens, on entend d'abord le bruit, et puis juste après il y a les flammes qui arrivent, on sent les flammes qui arrivent, puis on sent la chaleur, et d'un coup ça fait mal, on supporte plus, on hurle, etc. Je pourrais vous raconter, parce que je l'ai vécu. Quand vous avez les vêtements en feu, etc., moi je vois les films à l'hôpital, on regardait un peu la télévision, puis d'un coup on a vu une grande explosion, on s'est mis à rigoler avec mon ami, on dit c'est nous, on voyait les gens en feu en train de bouger comme ça, mais on sait ce que c'est, parce qu'on l'a vécu. Mais tant qu'on ne s'est jamais brûlé, on peut imaginer ce que c'est, mais on n'en parlera pas avec autant de conviction. Vous êtes d'accord avec moi ? La grâce de Dieu. Oh, je peux lire la Bible et dire, tu sais, la grâce de Dieu, ça veut dire que Dieu donne les choses gratuitement, ça veut dire que Dieu veut ton bien, que Dieu t'aime, etc. Mais la grâce de Dieu, si je ne l'ai pas vécu personnellement, si je ne l'ai pas expérimenté, j'en parlerai, ça sera fade, ce sera pas convaincant. Le baptême dans le Saint-Esprit, oh, je peux en parler. Je peux faire une belle étude avec tout ce que me dit la Bible. Mais honnêtement, est-ce que c'est pas quand on a été rempli du Saint-Esprit qu'on peut le mieux en parler ? Je crois. Il n'y a pas mieux que d'être rempli du Saint-Esprit pour parler du baptême dans le Saint-Esprit. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, verset 9. L'Éternel, on en parle très très peu, parce que c'est vrai qu'il faut d'abord savoir ce que Dieu dit. Mais je crois qu'une fois qu'on sait, le Seigneur veut qu'on goûte, qu'on sente, qu'on voit que Dieu est bon dans notre vie et que sa parole est vraie, qu'on la vive, qu'elle sorte du papier, qu'elle devienne relief dans notre vie, qu'elle devienne du vécu, qu'elle devienne effective. Une des choses dont on ne parle pas beaucoup, et j'espère que vous prendrez pas mal, mais apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachi, chapitre 3, verset 10. Le Seigneur voudrait quelquefois qu'on le mette à l'épreuve. Pas qu'on le tente, pas qu'on cherche à le piéger, mais qu'au contraire, on dit, Seigneur, même si ça me paraît impossible, même si c'est de la folie, entre guillemets, que de te faire confiance, je choisis de t'obéir pour expérimenter la parole de Dieu. Il faut la croire, se l'approprier et mettre en pratique. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait demander. Et si je demande, alors je pourrais expérimenter l'abondance et le fait que Dieu pourvoie. Ce texte, je l'ai vécu. Je suis convaincu quand je le lis. C'est pour ça que j'ai de la liberté à vous en parler. Un jour, alors que nous n'avions pas du tout de salaire, pas de chômage, puisque j'étais en jonction, j'étais brûlé, et puis je venais d'être licencié pour inaptitude au poste au bout d'un an et demi de convalescence, et j'étais rentré dans le ministère. L'Assemblée ne pouvait pas du tout me payer, donc j'étais sans revenu. J'avais ma femme, un loyer, et puis mon premier enfant qui était né, Élie. Et avec mon épouse, je dis « Alors, tu as donné l'offrande ce mois-ci, tu as donné à Dieu, pour l'œuvre de Dieu ?» Et mon épouse qui me dit « Mais Jérémy, la dîme, 10% de zéro, c'est zéro. » Je dis, c'est vrai, mais on va donner une offrande. Et on l'a fait. Puis on a dit, l'Éternel pourvoira. C'est ce que j'ai dit à mon épouse, t'inquiète pas, le Seigneur pourvoira. Elle dit, ok. Et puis, le dimanche, on donne l'offrande, on donne quelque chose au Seigneur, ce que Dieu avait mis sur notre cœur. Et puis, on rentre à la maison, on n'avait pas de quoi vivre, pas de quoi finir le mois. Mais j'avais l'assurance que Dieu pouvait pourvoir. J'étais convaincu, je savais que Dieu ne mentait pas. Et puis mon épouse, pareil, elle le savait. Même s'il y a des moments où on est chahuté, elle le savait. Même si ça coûte de faire confiance. Et puis on rentre le dimanche midi. Je dis, alors on a donné, oui, je ne sais pas comment on va faire, t'inquiète pas. On rentre et il y a le repas du midi. Et mon père qui dit, Jérémy, tiens, on l'avait invité à manger à la maison. Il dit, tiens, des personnes de l'église ont donné ça pour toi. Et puis, j'ouvre et il y avait de quoi finir le mois. Beaucoup plus que ce qu'on avait donné au Seigneur. Tout ce qu'il fallait pour finir le mois. Payer toutes nos factures, tout ce qu'il fallait. Et je servais le Seigneur. On avait notre voiture et on ne pouvait pas nous payer toute l'essence qu'il fallait pour les visites. Mais le Seigneur a pourvu pour cela aussi. Parce que Dieu promet. Et ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Mais il nous demande de lui faire confiance. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il n'y a rien de plus convaincant que quand on a vécu ce que l'on croit dans la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Comment on éprouve Dieu? Puisque Dieu a dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve » en lui faisant confiance et en lui obéissant. C'est ça, éprouver Dieu. Seigneur, je te fais confiance, je crois ce que tu as dit et j'obéis à ce que tu dis dans toute ta parole. Troisièmement, une fois que je me suis approprié la parole de Dieu, une fois que je l'ai vécue, je me mets à témoigner. Il ne faut pas garder les choses que pour nous. Il faut se mettre à témoigner, à raconter ce que Dieu a fait pour nous, à partager. Pourquoi ? Eh bien, trois choses encore. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de témoigner, je vais prendre de l'assurance. Parce qu'il y a une certaine timidité. Peut-être que des gens n'ont jamais pris la parole devant d'autres personnes. Peut-être que des gens sont remplis de timidité, c'est leur caractère. Mais Dieu nous dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans 2 Timothée 1, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il va nous donner la capacité, par son esprit, Si je cherche la présence de Dieu, cherche la face de Dieu, forcément au bout d'un moment je vais être rempli du Saint-Esprit. C'est pas possible autrement. Si je cherche vraiment la face de Dieu, cherche sa présence, cherche une communion réelle avec lui, un jour ou l'autre, le Saint-Esprit va descendre sur moi. Bien sûr, il faut que je lui demande, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta présence. Peu importe les années que ça fait que vous demandez que c'est pas là, continuez à demander, le Seigneur va venir. Cherchez la face de Dieu, cherchez sa présence, ça va venir tout seul. Et quand vous recevrez l'Esprit de Dieu, il vous donnera non pas de la timidité, il ôtera la timidité de vos cœurs et il mettra de l'amour, de la force, de la sagesse. Oui, de la force pour témoigner avec assurance, de l'amour pour témoigner non seulement avec assurance, mais sans écraser, mais pour relever, et puis de la sagesse pour savoir comment témoigner, quoi dire, qu'en parler, peut-être qu'en parler avec notre manière d'être aussi. Quelquefois, les actes parlent mieux que les mots. Quelquefois, la patience parle mieux que les mots. C'est ce que dit Paul par rapport aux époux inconvertis. Sans parole, sans parole. Ils verront. Aimez vos maris, aimez-les. Priez pour eux, dans le silence, confiez-vous au Seigneur. Et sans parole, le Seigneur touchera leur cœur. Ce n'est pas en ayant des longs débats qu'on convaincra dans ce genre de situation. Oui, témoignez, parce qu'en arrosant, je serai arrosé. Imaginez-vous que deux personnes dans un même travail sont au Seigneur, sont sauvées, mais ne se soient jamais parlé de Dieu par timidité, ou par négligence, par paresse, ou par peur, par honte. Deux personnes, ils sont là, ils auraient tant de choses à raconter parce que Dieu a fait tant de choses dans leur vie, mais ils ne s'en parlent pas l'un à l'autre. Vous ne croyez pas qu'ils passeraient à côté d'une grande édification? Quand deux personnes, dans un même travail en plus, c'est une grâce, hein, dans un même quartier, sous un même palier, découvrent qu'ils ont le même Sauveur, le même Seigneur, dit, mais tu sais ce que Jésus, j'ai prié et Dieu m'a fait grâce. Tu sais, la dernière fois, on a prié ensemble pour ça. Ça y est, Dieu m'a secouru, Dieu m'a exaucé ou Dieu m'a répondu tout simplement. Qu'est-ce que le Seigneur est bon. Et l'autre, il dit, ah oui, ah ben, ça me donne envie de prier aussi, de continuer. Eh bien, on va prier et paf, et puis après, on va y arriver et on va être de plus en plus convaincus. Quand on arrose, on est arrosé. C'est dans Proverbes chapitre 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand vous rendez témoignage, même avec une certaine timidité au début, et que vous continuez, le Seigneur permettra qu'à votre tour vous soyez arrosé. À votre tour, vous ayez de nouveau des expériences à raconter. À votre tour aussi, vous entendiez des bonnes nouvelles que d'autres le font. Parce que si tout le monde ne rend pas témoignage, personne n'est arrosé par le témoignage de l'autre. Mais si tous on rend témoignage, alors un coup c'est mon témoignage qui va édifier, mais un coup c'est le témoignage de mon frère qui va m'édifier. Et on va s'éduquer, ça va nous donner de l'assurance, de la conviction, parce qu'on va entendre la multitude de réponses que Dieu donne. Parce que Dieu est bon, et Dieu est riche en bonté, n'est-ce pas? Il n'est pas pauvre, Dieu n'est pas mendiant. Il est riche, et nous avons un grand héritage. L'héritage, ce sont entre autres toutes ces promesses. Et troisièmement, pourquoi témoigner? Simplement parce que c'est de l'obéissance aussi. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Luc chapitre 9. Si j'ai honte de Jésus sur la terre, il aura honte de moi dans le ciel. Et quelle assurance de savoir que si j'ai pas honte sur la terre, il n'aura pas honte de moi dans le ciel. C'est ça que ça veut dire, par déduction, n'est-ce pas? Si je n'ai pas honte de Jésus sur la terre, lui, il n'aura pas honte de moi dans le ciel. Imaginez-vous ce que ça veut dire. Que Jésus, au lieu d'avoir honte de vous, il sera fier de vous. Je le calcule comme je veux, mais il sera fier de moi. Il dira, oui, lui, il n'a pas eu honte de moi. Il ne va pas le dire devant 3-4 personnes. Hein. Devant qui il va le dire? Une multitude d'anges déjà, des milliers d'anges. Vous savez que Jésus, c'est le roi, mais pas que le roi de moi ou des chrétiens. C'est le roi de l'univers, le roi des rois. C'est le grand, grand roi, quoi. Il n'y a pas plus roi que lui. C'est celui devant qui tous les anges et tous les démons fléchissent. devant qui, quand il parle, eh bien, tout le monde obéit, sauf quand on est humain, tiens. Il faut être un homme pour résister à Jésus et à Dieu. Bref, mais même la nature obéit à Jésus devant la tempête, devant tout le monde. Il est le roi. Il est le roi. Il a reçu toute autorité. Et devant tout le monde, il pourra dire, Michaël, entre, bon et fidèle serviteur. Non ? Qu'est-ce que vous entendez dans la joie de ton maître ? Parce qu'on n'aura pas eu honte de lui sur la terre. N'est-ce pas ? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Peut-être que vous ne connaissez pas 100 versets par cœur, ni 10, ni 5. Mais il y a peut-être un verset que vous connaissez par cœur. Un verset qui vous a aidé dans une épreuve et qui vous a donné de tenir malgré l'épreuve. Eh bien, parlez de ce verset. Dire, voilà, ben, moi je ne sais pas dire grand-chose, mais j'ai une promesse de Dieu. Voilà. Et je sais qu'elle s'accomplira. Et le jour où vous la verrez s'accomplir dans votre vie, voilà, je savais ça et Dieu l'a confirmé. Et voilà. Et annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, vous savez que les actes des apôtres, le livre des actes des apôtres, si vous regardez à la fin, il ne s'arrête pas. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mot fin, il n'y a pas voilà, que la paix de Dieu vous garde, etc. Il n'y a pas de amen à la fin. Il y a, et voilà ce qui s'est passé, et ça s'arrête comme ça, et ça continue. Parce que les actes des apôtres, en vérité, ce n'est pas les actes des apôtres. C'est de l'acte de Jésus sur la terre, au travers de ses enfants. C'est l'œuvre de Dieu au travers de ses enfants. Et ces enfants-là sont morts, mais Jésus demeure vivant éternellement. Dieu est éternel. L'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui sur la terre. Et lui, il n'a pas terminé son travail. Il veut continuer. Lorsqu'il est dit « Allez par tout le monde », etc., etc., il est dit « Jésus confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Et il travaillait avec eux, il est dit. Pourtant, il vient d'être dit juste en haut que Jésus est enlevé au ciel. Comment Jésus continue à travailler sur la terre ? Par son Esprit. Et cet esprit, c'est le même qui travaille aujourd'hui, qui a touché nos cœurs et qui veut toucher encore beaucoup d'autres personnes au travers de nous, en nous utilisant. Aller par tout le monde. C'est la mission que Jésus nous a laissée. Trois choses. La première, s'approprier la parole de Dieu. Quand je m'approprie pour moi la parole de Dieu, en méditant la parole, en vérifiant tout ce que je lis, qu'est-ce qui me concerne à moi aujourd'hui ? Parce que si ça ne me concerne pas, si la promesse était pour quelqu'un, par contre, je peux voir quelle attitude il a eue, quelle chose il a vécu pour m'édifier, pour me... Il y a toujours quelque chose pour moi de toute manière. Mais je dois vérifier, méditer la parole, etc., etc. Je dois la vivre, expérimenter la parole. Beaucoup de personnes savent des choses, mais vivent si peu parce qu'ils ne croient pas que c'est encore pour leur temps aujourd'hui. J'ai parlé, je me suis retrouvé dans ma vie pendant 2 ans. Aller dans une assemblée où on ne croyait pas à l'action du Saint-Esprit. Je suis allé dans cette assemblée et les gens ne croyaient plus que Jésus guérissait aujourd'hui, que Dieu pouvait guérir. Vous savez ce qui s'est passé ? Ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'église, personne n'était guéri par Dieu. Ça paraît logique, mais c'est bien d'être précisé. Est-ce que nous croyons que Dieu guérit encore aujourd'hui ? Est-ce que nous croyons que Dieu sauve encore aujourd'hui ? Est-ce que nous croyons que Dieu baptise dans le Saint-Esprit encore aujourd'hui ? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on croit vraiment que la parole, elle est pour aujourd'hui encore ? Et que tout ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tant que Jésus n'est pas revenu, j'ai encore à vivre des choses sur cette terre. Et le jour où il sera revenu, j'espère que je les vivrai dans le ciel. Et que vous avec moi. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas au ciel. Qu'on est encore dans la tribulation, dans des choses comme cela. Et qu'on va peut-être aller... En enfer, ce n'est pas là notre souhait, le souhait pour personne. Oui, s'approprier, expérimenter et témoigner. Et si je fais ces trois choses déjà, conduit par l'action du Saint-Esprit en moi, dans ma vie, alors je vais gagner en assurance, en conviction et je vais devenir à mon tour convaincant. Et dans ma vie, je vais porter du fruit. Les gens autour de moi vont comprendre que Dieu les aime. Pourquoi ? Parce que moi, je vais les aimer. Je vais mettre en pratique la parole. Je vais avoir vécu des choses. Je vais leur dire, tu sais, voilà, je suis passé par là, par là, par là. J'ai vécu une dépression. Est-ce que c'est honteux pour un chrétien de traverser une dépression ? Ben non. Est-ce que ça arrive qu'un chrétien, il ait un rhume ? Eh ben oui. Eh ben alors qu'il ait une dépression ? Eh ben oui, ça peut arriver. Et voilà, j'ai traversé ça. Ça a été long. J'ai galéré. J'ai souffert. J'ai perdu mes pieds quelquefois. J'ai Douter, oui, mais Dieu m'a sorti de là. Il m'a aidé, il a mis autour de moi une famille, sa parole, son esprit pour me rassurer, pour m'encourager. Des gens ont prié pour moi. Voilà ce que c'est que la parole de Dieu. Oui, il a fait une famille, la preuve, elle est là, elle se réunit tous les mardis soirs à telle heure, dans tel lieu. Elle-même, elle m'a montré son amour. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis debout, j'en suis sorti. Et je peux te dire, avec assurance, que ce que tu traverses, Dieu peut t'aider à en sortir victorieux. Parce que je l'ai vécu moi. En conclusion, un verset. Ésaïe chapitre 26 et verset 3. Prenez-le avec moi. Ésaïe 26, 3. Après les psaumes. Quelques livres après Ésaïe. 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel. L'Éternel est le rocher d'un an. Ni de 10 ans, ni d'un siècle, ni de 10 siècles, mais des siècles, de tous les siècles, de toute éternité, l'Éternel est le rocher. Et nous savons qu'il est parlé de Jésus. Jésus, il est le rocher, il ne flanche pas, il ne se détruit pas, il n'est pas ébranlé par les circonstances. Jésus est le même, il restera le même. Alors soyez fermes dans vos sentiments, ne vous laissez pas attaquer, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Merci Éternel, encore de nous aider à chacun, pour nous-mêmes c'est vrai, eh bien à garder la foi en toi, une pleine assurance. Peut-être nous savons des choses parce qu'on nous les a dites, mais nous voulons les vérifier dans ta parole, les méditer, nous en enrichir, nous les approprier pour pouvoir les expérimenter avec toi, vérifier avec chaque promesse quel commandement, quel conseil, quelle ordonnance nous est accordée pour pouvoir être bénéfice de ces promesses et enfin être enrichi par cela, par des expériences que tu nous feras traverser et connaître avec toi de jour en jour. Je te dis merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité, tu n'es pas homme pour mentir, mais ta parole est la même encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et je te demande de nous donner du courage par ton Saint-Esprit, qu'il puisse transcender notre timidité, notre peut-être aussi paresse, notre honte de toi, et qu'on puisse bien sortir, aller même dans notre palier, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, dans notre monde, parler de toi Seigneur, racontez tes merveilles, racontez ce que tu as déjà fait pour nous. Peut-être qu'aujourd'hui on est dans un moment de doute, peut-être qu'on est aujourd'hui dans un moment creux, dans une épreuve, mais nous voulons nous souvenir ce que tu as fait hier, nous voulons nous souvenir tout ce que tu as déjà fait pour nous et le raconter, parce qu'en arrosant nous serons arrosés, parce qu'en donnant tu nous donneras Seigneur. Celui qui sème ne manquera jamais de semences. Nous voulons raconter tes merveilles, raconter tes actes dans nos vies, parce que tu es encore en train de travailler aujourd'hui. Oui Seigneur, nous ne voulons pas douter pour être au bénéfice de toutes ces choses. Donne-nous de méditer ces textes, de méditer ta parole pour qu'elle puisse s'enraciner dans nos cœurs et porter du fruit, Seigneur. Donne-nous d'être convaincus pour être convaincants, que ton nom soit glorieux et glorifié dans nos vies, Seigneur, parce que toi, tu as été convaincu et convaincant sur la terre pour nous. Merci, Père, de nous donner de l'être à notre tour pour ta gloire, pour ton honneur, pour ta renommée sur cette terre. Amen. Merci, Seigneur.